Amours en marge, de Yoko Ogawa. J'ai fait la connaissance de Y dans une petite salle d'un vieil hôtel situé derrière la clinique F. Cet hôtel était, paraît-il, fort intéressant sur le plan architectural, mais l'endroit n'était pas très gai. Au cours de mon hospitalisation dans le service ORL de la clinique F pour des problèmes d'audition, il m'arrivait souvent de regarder rêveusement en direction du porche de l'hôtel par la fenêtre de ma chambre qui donnait au-dessus des marronniers. Un après-midi, 2 jours après ma sortie, je suis allée à l'hôtel participer à une table ronde. Je venais tout juste de quitter la clinique et je n'avais pas encore suffisamment confiance en ma capacité à discerner correctement les sons. Je suis arrivée dans la salle où les autres participants étaient déjà réunis. Sur les chaises adossées au chauffage, avait pris place une femme d'âge mûr en tailleur perle et un jeune Eurasien. Sur celle collée au mur, l'un des journalistes de la revue qui organisait la réunion. Et au coin, se trouvait Y.
Mais je vous en prie, installez-vous.
Le soleil d'automne qui pénétrait par la fenêtre emplissait la pièce. Seule la chaise de Y était légèrement dans l'ombre, comme s'il s'était placé derrière la lumière.
Bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, cet entretien est enregistré. Hein?
Voilà.
Je vous remercie de participer, malgré vos occupations, à cette table ronde intitulée « C'est ainsi que je me suis guéri de mes troubles inopinés de l'audition ». Pour le numéro spécial de notre journal Page Santé. Bien. Tout d'abord, je vais vous demander de décrire l'un après l'autre les premiers symptômes de votre maladie.
Alors, dans mon cas, un matin, à mon réveil, tous les bruits avaient disparu.
C'est alors que je me suis aperçue que Y était sténographe.
J'ai eu tellement peur que je trouvais...
Parce qu'il avait commencé à faire glisser son stylo sur le papier au moment même où la femme avait prononcé son premier mot.
J'ai cru que la neige avait enseveli...
J'ai eu la curieuse impression de me trouver en présence d'un magicien.
J'avais ressenti ce silence de l'air le matin de neige. Mais je me suis rendu compte aussitôt que c'était idiot, on était en juin. Je ne savais pas du tout quoi faire. Tout était blanc à l'intérieur de ma tête. J'avais l'impression d'avoir perdu mes oreilles pendant la nuit. Et si la partie externe était toujours là... L'intérieur, l'essentiel, avait fondu, bouchant les trous.
Je ne pouvais m'empêcher de regarder les signes qu'il écrivait à toute vitesse. Ils se succédaient sans aucune interruption. Et d'après le mouvement de sa main, on pouvait imaginer à quel point leur forme était étrange et fascinante.
Ou si c'était simplement psychologique. Et puis bientôt, j'ai eu des nausées.
Je vois. Eh bien, nous allons maintenant passer au cas suivant.
Alors, moi au départ, je n'avais aucun symptôme. 3 jours après ma rentrée à l'université, j'ai passé une visite médicale et c'est au cours de l'examen auditif qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie. Mais alors qu'on me faisait écouter toutes sortes de bruits pour l'examen approfondi à la clinique F, j'ai fini par avoir l'impression que quelque chose bouchait mes oreilles. Tout au fond du conduit auditif, à l'endroit le plus étroit, quelque chose de mou. Oui, pas dur comme du liège, comment vous dire. J'avais l'impression qu'une aigrette de pissenlit y était restée coincée.
Moi aussi, j'ai eu cela.
Dans la mesure où Y était assis à côté de moi, je ne voyais pas très bien l'expression de son visage. Pourtant, il me suffisait de voir ses mains sans cesse en mouvement pour être capable de sentir avec certitude sa respiration.
C'était comme si mes oreilles avaient été bouchées avec une petite pièce de 1 centime.
Madame, vous voulez bien à votre tour nous décrire vos sensations ?
Oui. Mais comme je viens tout juste, avant-hier, de quitter la clinique, je ne sais pas très bien si je suis vraiment guérie. Alors je me demande si je vais pouvoir en parler correctement.
Si, ne vous inquiétez pas.
J'ai essayé de baisser volontairement les yeux pour que ses doigts entrent dans mon champ de vision.
Le matin,
je ne voyais toujours pas ce qu'il écrivait.
J'ai été réveillée par un son étrange.
Mais je sus que ma voix était immédiatement enregistrée sur le papier blanc.
Il ne s'agissait pas d'un bruit ordinaire de la vie quotidienne.
Cela me rassura.
C'était beaucoup plus bizarre. J'ai écouté un moment dans mon lit et j'ai fini par supposer qu'il s'agissait d'une flûte traversière. Pas en métal, mais en bois. Comme la fenêtre de la véranda était ouverte sur environ 20 cm, j'ai cru que ma voisine faisait de la musique. Elle est mannequin. Elle a pas mal de succès. Elle n'est pas du genre à jouer de la flûte. Mais j'en étais persuadée. Parce que j'étais sûre d'entendre un son de flûte.
Et au réveil, soudain, un mannequin qui joue de la flûte. Quelle étrange maladie.
Mais là où j'ai eu vraiment peur, c'est quand je me suis aperçue que personne ne jouait de la flûte. J'ai beau fermer la fenêtre, prendre une douche, le bruit était toujours là. Le plus troublant, c'est d'entendre un son qui n'existe pas.
Oui, je comprends bien ce qu'on peut ressentir.
Je ne m'expliquais pas pourquoi, alors que pour moi la conversation sur les oreilles était bien plus importante, j'étais uniquement préoccupée par Y. Le plus curieux était que personne d'autre que moi ne faisait attention à lui. Personne ne le voyait, personne ne lui adressait la parole.
Quelconque facteur déclenchant, en vous remémorant votre vie quotidienne, vos conditions de travail ou votre situation psychologique avant de tomber malade?
Ce que je sais, c'est que la veille du jour où j'ai entendu le son de la flûte, mon mari a quitté la maison. Je veux dire que nous nous sommes séparés, mon mari et moi. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment en relation avec ma maladie. Même si à la clinique F, on m'a dit que ce genre de souffrance psychologique est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est sans doute la cause directe.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup souffert psychologiquement.
Surtout comme je posais la main sur ma clavicule gauche, Y leva vivement les yeux et me regarda. Ce fut si bref qu'il me fut impossible de m'assurer de la forme de ses yeux et de leur expression. Son regard était passé sur moi comme une étoile filante.
On va en rester là.
Il ne pouvait pas transcrire autre chose que des mots.
Et oui.
Comment avait-il transcrit le geste que je venais de faire?
Je crois que l'essentiel a été dit.
D'accord.
Voilà. Merci.
Je pensais essayer d'adresser la parole à Y. Il me montrerait peut-être ses mots sténographiés. Je jetai un regard à ma gauche, là où il aurait dû se trouver, mais il n'y était plus. Il avait disparu comme s'il s'était volatilisé.
Voilà.
Merci beaucoup.
C'était beau. Hein, vous avez vu, c'était assez rapide. Quoi.
Au revoir.
Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup.
Le lendemain, je retournais à la clinique F. Une journée avait suffi à me faire revenir en arrière, au moment où mes oreilles étaient dans le plus mauvais état. Une nuit de sommeil n'avait pas enlevé la fatigue de la table ronde. Et bientôt, tous les bruits entrant dans mes oreilles se mirent à cogner désagréablement les uns contre les autres. C'était un dimanche. Il faisait un temps vraiment magnifique. La visite de l'après-midi venait tout juste de se terminer et je rêvassais comme d'habitude. Je me sentais d'humeur chagrine et solitaire. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Mes oreilles se mirent à vibrer aussi fort que si mes tympans avaient reçu directement un coup de marteau. Pour frapper avec autant d'imprudence, ce devait être quelqu'un qui ne comprenait rien à l'état de mes oreilles.
Entrez.
La porte s'ouvrit avec hésitation. Mon mari se tenait là. C'était tellement inattendu, et la vibration de mes tympans était si intense que je n'arrivais pas à prononcer un mot. Cela faisait 4 mois, depuis le jour où j'avais entendu le son de la flûte, que je ne l'avais pas vu. Pendant tout ce temps, nous n'avions rien échangé du tout, ni coup de téléphone purement formel, ni petits mots écrits à la hâte. Un vide parfait. Après un moment de gêne, il sortit un carnet de croquis. Un simple carnet, comme ceux qu'utilisent les étudiants des beaux-arts.
J'ai appris par le gardien de l'immeuble que tu étais malade. Comment te sens-tu? J'ai tout de suite téléphoné à la clinique. Comme l'infirmière m'a dit que les conversations sont limitées pour ne pas éprouver inutilement tes oreilles, j'ai préparé ce carnet pour communiquer par écrit. Je suis désolé de t'avoir laissé si longtemps sans nouvelles. Mais je pensais que du temps nous était nécessaire. Je vais maintenant parler de choses concrètes. Je pense que c'est mieux pour tes oreilles.
J'avais l'impression de lire des affiches ou des pancartes de manifestation. Sur ce genre de panneau, la vérité est toujours proclamée. Mais je ne sais pourquoi, c'est une vérité qui n'arrive pas jusqu'à l'âme. Tu t'es bien préparé, dis-moi.
C'est possible de parler ?
Oui. Mais je te serais reconnaissante de bien vouloir le faire un peu plus bas.
Comme on m'a dit que tu souffrais de troubles de l'audition, j'ai cru que tu n'entendais plus. C'est pour cette raison que j'écris tout cela.
Les sons ne m'arrivent pas correctement. Ils résonnent comme des aboiements. Finalement, c'est comme si je n'entendais rien. En fait, j'entends mieux les sons faibles parce qu'ils résonnent moins.
C'est une bien curieuse maladie.
Bon. Alors, commençons par les choses concrètes, comme tu dis.
Tout d'abord, je pense qu'il n'est pas bon de rester plus longtemps dans cette situation incertaine. Je suis incapable de revenir à notre vie d'avant. Enfin, je m'inquiète pour toi.
Je pouvais toujours intervenir. Il n'en corrigerait pas pour autant le message qu'il s'était appliqué à écrire.
Il n'a rien à voir avec cela. Je te cède l'appartement.
Tous ces mots avaient été préparés à l'avance.
Bien sûr, tu n'auras pas à t'inquiéter des frais que nécessitent.
Ils avaient d'abord été écrits au brouillon, puis corrigés, puis recopiés au propre.
Jusqu'à ce que tes oreilles soient
totalement. Aucun mot n'avait été préparé pour moi.
J'ai préparé la déclaration de divorce. Je l'ai signée et j'y ai posé mon sceau. Voilà.
Tu as l'intention de vivre avec elle ? Tu as l'intention de vivre avec elle ? Et dans mes oreilles, ce fut comme si une centaine de pianos désaccordés avaient commencé à jouer en même temps. Autrefois, je ne sais plus dans quel musée, j'avais vu le cornet acoustique de Beethoven. Je n'étais qu'une petite fille de 13 ans, accompagnée par un garçon de sa classe. Je crois qu'il s'agissait, pour lui comme pour moi, du premier rendez-vous de notre vie.
Qu'est-ce que c'est ?
Ce jour-là, notre projet initial d'emporter un pique-nique pour aller nous amuser au bord de la mer étant tombé à l'eau à cause du mauvais temps, nous nous étions réfugiés sans vraiment le vouloir à l'intérieur d'un musée. Je ne me souviens plus de quelle sorte de musée il s'agissait. La seule chose claire, c'est cet appareil auditif de Beethoven qui y était exposé.
C'est joli.
Il était posé sur un socle à l'intérieur d'une vitrine. Il ressemblait moins à un appareil auditif qu'à un instrument de musique en bois ou à une corne d'animal. Penché au-dessus de la vitrine, nous l'avions observé sous tous ses angles.
On dirait une corne.
Sa surface était lisse, sans décor ni motif. L'extrémité la plus fine, qui avait sans doute touché directement l'oreille de Beethoven, luisait faiblement.
J'aimerais bien l'appliquer contre mon oreille. Par exemple, quel bruit aimerais-tu entendre ?
Eh bien, celui de la pluie aujourd'hui, et ta voix.
Je suis sûre que ça doit faire un drôle de bruit. Un bruit incroyable, comme on n'en a encore jamais entendu jusqu'à présent. L'esprit du bruit habite à l'intérieur, tu sais. Il fait entendre toutes sortes de sons qu'on ne perçoit pas dans la réalité. Celui cristallin, des gouttes de pluie qui s'entrechoquent, ou de ma voix qui se dissout dans l'air.
Nous sommes restés là un moment. Finalement, la pluie n'avait pas cessé, et nous avions mangé notre pique-nique sur la terrasse abritée des jardins du musée. Nous avions mangé en silence, les yeux fixés sur la pelouse, en nous rappelant de temps en temps le cornet acoustique de Beethoven. Et ce garçon, qu'était-il devenu ? Le sténographe est venu me voir un jeudi soir à la clinique, alors que je somnolais à moitié.
Excusez-moi. Je ne vous dérange pas.
Au cours de la table ronde, je ne l'avais pas vraiment vu de face.
Pas du tout.
Mais j'ai su aussitôt que c'était lui. Je n'avais pas besoin de regarder son visage. Voir ses doigts me suffisait.
Je vous en prie, venez plus près. Venez vous asseoir à mon chevet. Parce que je ne peux parler qu'à voix très basse.
Avec ma voix comme cela, ça ira?
À la réflexion,
oui, ça ira.
C'était la première fois que j'entendais le son de sa voix. Elle était ordinaire, sans rien de remarquable, mais elle avait du charme, et aussi une indéniable présence que je n'arrivais cependant pas à cerner.
Page Santé m'a envoyé les épreuves de la table ronde. Comme il se trouve que j'avais quelque chose à faire à l'hôtel, j'en ai profité pour vous les apporter. Comment vous sentez-vous?
Il était doué pour parler à mi-voix. On aurait dit qu'il savait exactement quel était le volume sonore le mieux adapté à mes oreilles.
De toute façon, c'est une maladie qui demande beaucoup de temps.
Voilà. S'il y a des endroits que vous voulez corriger, faites-le au stylo rouge. Le journaliste a dit qu'il passerait les prendre. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas tarder à vous laisser.
Si cela ne vous dérange pas, vous ne pourriez pas rester encore un peu? C'est maintenant le moment le plus triste de toute la journée à la clinique.
Faire travailler longtemps vos oreilles n'est peut-être pas très bon. J'espère que vous allez vite vous remettre. Hein.
Je vous remercie. Mais je crois qu'il va me falloir du temps. Même si je guéris, je ne suis pas du tout sûre que quelque chose d'amusant m'attende. Je crois que ma situation est ce qu'il y a de plus mauvais pour mes oreilles. J'ai divorcé. Tout récemment, dans cette chambre. J'ai été mariée pendant 3 ans, de 22 à 24 ans, et c'est trop triste que cette vie se termine dans la chambre d'un service ORL. Vous trouvez pas? Quand je retrouverai mes oreilles d'autrefois, je me demande quel bruit elles auront gardé en mémoire.
Ça va aller. Votre voix est douce. Même si tous les sons disparaissent, elle restera.
J'ai quelque chose à vous demander. Vous voudriez me montrer les doigts de votre main droite? Merci. Ce sont de beaux doigts, je trouve. Mais ils n'ont rien de particulier.
C'est normal, vous savez.
Mais vous écrivez facilement tant de mots sans connaître la fatigue. Je pensais que vous aviez des doigts spéciaux.
Vous avez pensé qu'un bouton secret était caché là, sur le pouce, et qu'il suffisait d'appuyer dessus pour modifier la programmation des doigts. Malheureusement, ils sont très ordinaires.
Vous me montrerez encore une fois vos doigts?
Oui, quand vous voudrez. Voici ma carte.
Merci.
La première ligne mentionnait « Centre de publication de procès-verbaux, association de sténographie ». La deuxième ligne indiquait son nom. Et sur la troisième était écrit son adresse, dans un quartier que je ne connaissais pas, et son numéro de téléphone.
Bon, alors, à une prochaine fois, quelque part.
Le garçon de 13 ans jouait souvent du violon. Il était dans la même classe que moi depuis l'école primaire. Et bien sûr, je le connaissais à 6 ans et à 11 ans. Mais dans ce souvenir particulier, il en avait 13. Parce que c'était l'âge où il avait soudainement disparu. Juste après notre visite au musée où nous avions découvert le cornet acoustique de Beethoven. Il prenait grand soin de son violon. Il en avait peut-être hérité d'un défunt. Ou c'était peut-être un cadeau. C'était un vrai violon, pas un jouet. Il en jouait sur l'herbe du lit de la rivière tranquille comme un marais, et je l'écoutais, assis sur une pierre à proximité. Il interprétait toujours le même morceau qu'il ne cessait de répéter. Mais je ne m'en lassais pas. Je me laissais aller et pouvais flotter indéfiniment sur cette vague de douceur. Lorsque parfois son archet grinçait sur les cordes, Il faisait naître une pointe de nostalgie à l'endroit le plus tendre au fond de ma poitrine. Oui, le nom de ce morceau était l'une des choses précieuses que j'avais omis de lui demander. Pourquoi ce garçon avait-il brusquement disparu à l'âge de 13 ans? Hiro lui aussi était âgé de 13 ans. Il fut mon premier visiteur à ma sortie de la clinique. C'était le fils unique de la sœur aînée de mon mari, si bien que maintenant, il ne représentait officiellement plus rien pour moi.
Comment vont tes oreilles ?
Je te remercie, je crois que ça va aller.
Tu entends bien ma voix ?
Bien sûr que oui.
Et les klaxons des voitures qui passent dans l'avenue en bas, tu les entends ?
Oui.
Le bruit du réfrigérateur ?
Oui, même que cela me gêne.
Celui du vent ?
Oui, jusque dans les coins. Mais je ne saurais jamais quels sont les bruits que je n'entends pas, hein, puisque je ne les entends pas. Ce serait bien si j'avais près de moi quelqu'un qui me confirmerait chaque bruit comme tu viens de le faire.
Ah zut, j'avais oublié. Mon oncle m'a demandé de te donner cette enveloppe. Il a dit qu'il voulait que tu ouvres un compte en banque à ton nom.
Il a raison, ça serait certainement mieux.
Tu devrais le détester beaucoup plus. À 13 ans, qu'est-ce que tu faisais ?
À peu près comme toi. Il y avait les équations du second degré, les Jeux Olympiques, la fête de l'école. Mais je ne transportais pas d'argent. Et puis j'étais amoureuse.
Amoureuse ?
J'aimais entendre ce garçon jouer du violon. Un jour de pluie. Nous nous sommes retrouvés dans un musée. Nous avons vu le cornet acoustique de Beethoven. Et nous avons mangé des sandwichs ramollis par l'humidité. Ce genre de choses, vois-tu?
C'est bien. Est-ce que je peux revenir te voir?
Tu es toujours le bienvenu.
Tiens, emporte ça, c'est un gâteau aux noix. Je l'avais préparé en pensant à toi. Merci.
Comme tous les 15 jours, j'étais venue chercher mon traitement à la consultation externe ORL de la clinique F. Depuis quelque temps, mes bourdonnements d'oreilles avaient repris. Mais ce jour-là, leur timbre m'était inconnu. Ils ne rentraient dans aucune catégorie. Contrairement à ceux dont j'avais souffert jusqu'alors, ces bourdonnements n'étaient pas désagréables. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de lien avec mes maux d'oreille et qu'ils provenaient de beaucoup plus loin. J'ai fermé les yeux pour me concentrer dessus. Je voulais à tout prix essayer de les remplacer par d'autres bruits. Feuilles mortes, cascades, triangles, oiseaux sauvages, soupirs. Aucun ne convenait.
Que regardez-vous ?
Je ne regarde pas. J'écoute. Les sons qui résonnent au fond de mes oreilles.
Vous êtes dérangé ?
Pas du tout. Bonsoir, bonsoir. Venez donc vous asseoir à côté de moi.
Avec plaisir. Vous percevez un bruit que je n'entends pas, c'est ça ?
Oui. Grâce à ma maladie, voyez-vous. Mais cela ne me rend pas prétentieuse. Au contraire, j'aimerais tellement le partager avec quelqu'un. En reliant nos oreilles par une fine tubulure, nous pourrions l'avoir en commun.
Elles sont mystérieuses, vos oreilles.
Pas autant que vos doigts.
Aujourd'hui, j'ai travaillé à l'hôtel. Et je me suis rappelé que vous m'aviez dit que vous veniez deux fois par mois à la clinique. Et je ne sais pourquoi, je me suis dit que j'allais certainement vous y trouver.
Ces temps-ci, je vais un peu partout passer des entretiens d'embauche, vous savez.
Des entretiens d'embauche?
Oui, mais rien n'a marché. L'entretien d'hier a été épouvantable. Comme il s'agissait d'une maison qui fabrique des livres pour enfants, je l'ai pris un peu trop à la légère. Et alors on m'a demandé de but en blanc de citer plus de 30 véhicules de travail pour un livre d'images sur les voitures destinées aux enfants de 2 à 3 ans. Voitures de police, ambulances, camions de pompiers, jusqu'ici tout allait bien. Bulldozer, camion grue, camion citerne, bétonnière, camion à ordures. Quand j'en suis arrivée là, mon imagination s'est bloquée. Et j'ai eu beau m'efforcer, plus aucun véhicule ne me venait à l'esprit. En désespoir de cause, à la fin j'ai dit corbillard.
C'est une réponse magnifique. Même aux enfants de 2 ans, il est nécessaire d'apprendre ce qu'est un corbillard. Autobus de don du sang. Camion porte-bouteille. Chasse-neige. Camion réfrigéré. Semi-remorque.
Dès qu'il les prononçait, ce n'était plus du simple vocabulaire dépourvu de toute signification, mais des mots ayant une histoire fascinante. J'avais l'impression d'entendre des noms de déesses mythologiques.
Rouleau compresseur. Épandeur.
Sa voix n'en finissait pas de s'écouler sur le sol de la salle d'attente.
De machine-outil. Excavatrice. Des rocheuses. Voiture laboratoire blanche.
Même si la nuit était déjà tombée, c'était encore un peu tôt pour se séparer. Mais comme il faisait trop froid pour se promener dehors, nous décidâmes de nous promener à l'intérieur de l'hôtel. Nous n'avons croisé qu'un employé et un client. Mais l'un comme l'autre marchaient sans bruit comme des ombres. Au premier étage où se trouvaient les chambres se succédaient 5 portes de la même taille de part et d'autre du couloir. Aucune ne donnait l'impression d'être occupée. Le palier, où se trouvaient 2 fauteuils Windsor dans le clair de lune, ressemblait à une nature morte. La poussière sur le dossier montrait qu'il n'avait pas été utilisé depuis un certain temps.
Lors de la table ronde, j'ai dû passer par là, mais je n'ai pas remarqué ce palier.
Les fauteuils étaient très vieux et élégants. À l'endroit où l'on s'assoit, une toute petite fleur avait été sculptée. J'ai pensé que c'était peut-être du jasmin.
Autrefois, cette fenêtre donnait sur un balcon. On dit que dans la journée, quand il faisait beau, les rayons du soleil éclairaient la rambarde en pierre sculptée, faisant étinceler le balcon comme un diadème, et que la nuit, au clair de lune, il ressortait comme un marais dans l'obscurité.
Mais pourquoi le balcon a-t-il disparu?
Lorsque le fils du marquis avait 13 ans, il est tombé de ce balcon. Il n'est pas mort, mais il s'est cogné lourdement la tête, si bien qu'il en est resté pratiquement invalide. Alors le marquis a aussitôt fait détruire le balcon.
Autour de nous, maintenant, le silence était complet. J'avais l'impression de marcher à l'intérieur de mes propres oreilles.
Après sa chute, le fils du marquis a passé les 10 dernières années de sa vie dans cette pièce. C'était son unique univers. Le marquis y cultivait des jasmins.
Mais pourquoi du jasmin?
Pour calmer les crises de son fils, qui parfois étaient épouvantables. Son corps s'arquait à se briser, ses membres se convulsaient, et tout transpirant, il se mettait à hurler comme une bête sauvage. Les médecins eux-mêmes ne savaient pas pourquoi les crises commençaient, ni pour quelle raison elles se terminaient soudain. Mais un soir qu'une infirmière avait apporté sans y penser du jasmin cueilli au jardin, une crise plus forte que les autres s'était calmée de manière inexpliquée au fur et à mesure que l'odeur s'était répandue dans la pièce. C'est ensuite que le marquis a noyé sa chambre sous les pots de jasmin. Il a littéralement enseveli son fils dessous.
Je faillis lui demander pourquoi il connaissait le détail de cette histoire, mais je me retins involontairement. Parce que je venais de sentir une odeur. Elle emplissait ma poitrine d'une manière troublante.
C'est l'odeur du jasmin, n'est-ce pas?
Oui.
Il y en a encore ici?
Non. Le matin de la mort de son fils,
Le marquis a tout brûlé au fond du jardin. Il ne reste que l'odeur. Cette odeur qui imprègne la pièce en profondeur n'a pas disparu. Et chaque soir, à 8 heures, elle renaît. Vous les entendez toujours, les bruits de tout à l'heure?
Ils n'ont pas cessé depuis la clinique. Ils ne se sont pas interrompus une seule fois et ils n'ont pas été dérangés non plus par votre voix. J'ai quelque chose à vous demander. Pourriez-vous me prêter vos doigts pour mes oreilles? Cela faisait une drôle d'impression de voir Y chez moi, assis à la table de la salle à manger. À la pensée qu'auparavant c'était mon mari qui s'asseyait là, j'ai senti que l'écoulement du temps de ces quelques mois avait suivi un cours particulier.
Vous pouvez commencer quand vous voulez, je suis prêt.
Bon, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le moi. S'il n'y a pas assez de lumière, si ma voix est trop faible...
Non, ça va. Tout va bien.
Lorsque je vivais sans me rendre compte que j'avais des oreilles, tout allait de soi. Je ne sais pas à partir de quand tous les petits faits de la vie courante ont peu à peu commencé à se déformer. Des torsions se sont produites un peu partout, là où je n'avais pas accès, auxquelles il m'était impossible de remédier. Et je ne savais pas ce que cela signifiait. La seule chose claire, c'est que tout a commencé à partir de mes oreilles. C'est une chance de vous avoir rencontré aujourd'hui. Parce que grâce à vous, je peux essayer de poser des paroles et des mots sur ces bourdonnements. Seule, je n'aurais sans doute rien pu faire. En ce moment même, le bourdonnement continue. Il ne s'estompe pas, ne se renforce pas. Il est toujours pareil. Je me demande jusqu'à quand il va continuer ainsi. L'idée qu'il puisse ne pas disparaître ne m'inquiète pas. Au contraire, j'ai peur que s'il disparaissait, il ne revienne plus jamais dans mes oreilles. Est-ce que vous me comprenez?
Y a posé son stylo à l'instant même où je finissais de parler.
Je peux regarder?
Oui.
Le papier était d'un genre que je n'avais encore jamais eu entre les mains. Il était d'un toucher incroyablement surprenant. Sa blancheur était proche du naturel et offrait à la fois résistance et souplesse. On aurait dit de la peau humaine.
Tous les mots que je viens de dire sont enfermés là.
Oui, c'est exact.
En observant l'ensemble comme un long motif continu, cela avait soudain plus de charme. C'était soigneux, doux et libre. Peu à peu, j'ai commencé à pouvoir reconnaître toutes sortes de choses à partir du fil ininterrompu d'encre bleue.
Maintenant, j'ai mes bourdonnements entre les mains, n'est-ce pas?
Bientôt, le rythme du bruit au fond de mes oreilles et celui du fil bleu se sont superposés, en s'accordant de telle sorte que je ne savais plus si je suivais le bruit ou le fil. Pour moi, c'était la même chose. C'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Une forme ignorée jusqu'alors est apparue soudain devant moi, sans aucun signe avant-coureur. J'ai regardé encore une fois le fil bleu pour m'assurer que je ne m'étais pas trompée.
Je sais. C'était du violon. Mes bourdonnements. Je me demande pourquoi je ne m'en suis pas aperçue plus tôt, alors que c'est évident. Mais oui, du violon. C'est grâce à vos doigts. Merci.
De rien.
Il faut fêter cela. Je dois avoir une bouteille de vin. qu'allez-vous faire de ce que vous venez de sténographier? Quand vous n'en avez plus besoin, vous le jetez?
Non, je conserve tout dans une pièce spéciale, qui n'est pas humide, où la lumière n'entre pas, et qui est fermée par une solide clé. Des tiroirs en bois qui permettent un classement soigneux y sont empilés du sol au plafond.
Dans quel tiroir allez-vous ranger le manuscrit d'aujourd'hui?
Il va falloir que j'ouvre un nouveau tiroir et que j'y colle une nouvelle étiquette.
Qu'allez-vous écrire dessus?
Bourdonnement, peut-être.
Cela a laissé une vibration impressionnante dans la pièce en cette nuit d'hiver. Jusqu'alors, je n'avais jamais réalisé que le mot bourdonnement pouvait être aussi beau.
Lorsque je vivais sans me rendre compte que j'avais des oreilles, tout allait de soi.
C'était toujours vers 8 heures du soir qu'il arrivait, juste à l'heure du jasmin.
Dans cette pièce,
il attendait en silence, sans s'impatienter.
Nous avons ri.
Il ne posait jamais de questions sur le contenu de l'histoire.
Et nous avons dormi.
Et il posait toujours son stylo au moment précis où je prononçais mon dernier mot. Comment comprenait-il que mon récit se terminait?
On dirait qu'aujourd'hui, on a utilisé beaucoup plus de papier que d'habitude.
Pas tant que ça.
Excuse-moi si cette demande te paraît inconvenante, mais pourrais-je avoir quelques-unes de ces feuilles? Bien sûr, je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Une seule suffirait.
Qu'il s'agisse d'une feuille ou de 100, c'est la même chose. Je crois que c'est impossible de te les donner. Je ne dis pas que c'est parce que je ne le veux pas d'une manière sentimentale. Le problème est beaucoup plus fondamental et délicat. Je suis désolé de ne pas pouvoir l'expliquer plus habilement. En tout cas, je pense que tu n'as pas à garder par caprice ces fragments de mémoire.
Fragments de mémoire?
Oui. Chaque feuille est un fragment de mémoire. Un fragment de temps. Pour toi. C'est pour cela qu'on ne peut pas si facilement les éparpiller ou les jeter quelque part. Parce qu'on ne peut pas réorganiser la mémoire. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Je n'aurais pas dû te les demander à la légère. Excuse-moi.
Tu n'as pas à t'excuser, mais...
J'ai compris. J'ai compris chaque mot de ce que tu viens de dire. En fait, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. Je dois laisser tes doigts s'en débrouiller. Si on y réfléchit, c'est tout simple. Tu veux vraiment partir?
Dès qu'il avait terminé sa sténographie, il repartait. Il n'hésitait jamais, ne traînait pas.
Il est tard, il fait froid dehors.
Il boutonnait méthodiquement son manteau. Je me suis surprise à espérer qu'il y ait une grande quantité de boutons. Mais qu'aurais-je voulu faire en le retenant? Je ne savais pas très bien. Je souhaitais seulement offrir cette nuit à ses doigts et à moi.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Un matin, au réveil, mon corps était bizarre. Je respirais mal, j'avais la nausée, et je ne sentais plus mes mains ni mes pieds. Quant à mes oreilles, elles étaient amorphes, comme si on les avait remplies d'un épais brouillard. Je voulus essayer de me lever, mais mon corps ne m'obéissait pas. Dans la soirée, Hiro eut la bonne idée de venir me rendre visite.
Si je demandais à Y de venir, bon, je vais prévenir. Allô? Oui, c'est Hiro. Oui, c'est à propos d'elle.
J'ai encore somnolé. j'avais l'impression d'avoir beaucoup dormi. Quand j'ouvris les yeux, il faisait nuit et la lampe était allumée. Y se trouvait à mon chevet. Il était assis exactement à l'endroit où se trouvait Hiro un moment plus tôt.
Comment te sens-tu ?
Je voudrais voir tes doigts sténographiés.
Aujourd'hui, il vaut mieux y renoncer.
Pourquoi ?
Tu as de la fièvre. Tu devrais dormir.
C'est dommage. Tes doigts sont si proches. Après un instant d'hésitation, il a sorti son matériel, l'a posé sur ses genoux. Puis il m'a regardé avec ses yeux pleins de tendresse qui pardonnaient tout. J'ai l'impression qu'un trou invisible s'est formé dans un coin de ma mémoire, qui laisse s'échapper en sifflant ce qu'elle contient. C'est un peu douloureux. Je pense que mes oreilles sont à la recherche de choses sans épines. Elles ont soif de souvenirs qui reçoivent la caresse de l'écoulement du temps, dont toutes les ronces ont été enlevées, de souvenirs doux au toucher, qui ne trahissent jamais et ne provoquent pas de douleur. Je crois que mes oreilles ont été blessées bien plus que je ne le pensais. Je crois qu'elles essaient de se guérir par elles-mêmes. Ma mémoire est complètement refermée sur elle-même, à tel point que je n'y reconnais ni le début ni la fin, ni même les enchaînements. Mais la mémoire est peut-être toujours plus ou moins ainsi, n'est-ce pas ? Et peut-être que tout simplement, personne ne s'en aperçoit. Alors que moi, j'attends tellement de ces mots que tu sténographies. Je voudrais te demander quelque chose.
Quoi ?
Je voudrais m'endormir en serrant tes doigts.
Ça, c'est facile.
Il a posé ses doigts sur ma poitrine. Je me suis endormie en les serrant. Au matin, j'avais les jambes en coton à cause de la fièvre, mais je décidai néanmoins de me rendre au centre de publication de procès-verbaux, association de sténographie. À l'adresse indiquée sur la carte de visite se trouvait un entrepôt transformé en magasin d'antiquités. Son aspect extérieur était simple, sans aucun ornement. La porte d'entrée en chêne épais paraissait lourde. Et un panneau indiquant que c'était le jour de fermeture était accroché à la poignée. En désespoir de cause, je me suis aventurée vers l'arrière. De vieux meubles s'y entassaient, tandis qu'un vieillard aux cheveux blancs coupés courts était en train de réparer un tiroir de commode qui ne fermait plus.
Je suis désolée de vous déranger dans votre travail.
Comment ?
Vous êtes du magasin ?
Non, je suis employée pour réparer les meubles. Ici, c'est le magasin d'un Anglais qui s'appelle Monsieur Clarel. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le jour de fermeture. Si bien qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je peux peut-être vous aider. Mais avant, asseyez-vous là. Vous n'avez pas bonne mine, vous ne vous sentez pas bien ? Tenez.
Je vous remercie. Vous ne connaîtriez pas un endroit qui s'appelle le Centre de publication des procès-verbaux, association de sténographie ?
Sténographie ? C'est quoi ça ?
On transcrit ce que les gens disent. On utilise des signes spéciaux pour écrire plus vite. Ça ne vous rappelle rien ?
Décidément, je ne vois pas. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous être utile. Mais si vous voulez, vous pouvez regarder à l'intérieur. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici... Vous trouverez peut-être quelque chose. Tenez, vous allez passer par ici. Mais c'est sombre à l'intérieur. Vous ferez attention où vous mettez les pieds. Vous vous sentez d'aplomb ?
Oui. J'ai seulement un petit problème d'oreille. Mais je me sens mieux maintenant.
Ah, les oreilles. Faites-y attention. Ce n'est pas parce que ce sont tes oreilles qu'il faut les négliger.
À l'intérieur, c'était plus profond et il faisait encore plus sombre que je ne l'aurais cru. Et les meubles anciens remplissaient pêle-mêle la pièce, à tel point que c'était difficile de se frayer un chemin. J'avançais lentement. Tout était silencieux et en retrait, comme plongé dans un profond sommeil. J'effleurais de la main le dessus d'un buffet, la poignée d'une vitrine. Ils étaient glacés. Je finis par avoir l'impression de m'être égarée dans un labyrinthe de meubles. Je me suis aventurée courageusement vers le fond. Sur un secrétaire, il y avait un cadre avec une vieille photographie. Je tendis prudemment la main vers elle. Elle représentait deux garçons, deux frères sans doute. Ils se tenaient l'un à côté de l'autre, dans un endroit qui ressemblait à une véranda en pierre bien ensoleillée. On apercevait derrière eux une grande fenêtre et des rideaux bordés de dentelles.
Mais c'est le balcon.
Le plus petit des deux garçons était celui de 13 ans qui avait joué du violon pour moi. J'ai serré fort le cadre contre moi. Qui était l'autre? Je voulus essayer de mieux regarder son visage, mais la photo était décolorée et floue, comme s'il y avait une ombre à cet endroit. Seuls ses doigts se découpaient nettement. C'était ceux de Y. J'ai remis le cadre en place, puis j'ai pris une profonde inspiration. Je sentais se précipiter les battements de mon cœur. Je ne pouvais rien faire. Ma poitrine était douloureuse et j'avais le vertige. Je me suis dirigée vers le premier étage. Là, il y avait un gros tas de sièges. En équilibre instable. Au sommet du tas, touchant presque le plafond, était accroché un fauteuil Windsor. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oui, c'était bien le même que ce que j'avais remarqué sur le palier du balcon de l'hôtel. En regardant mieux, je découvris même un jasmin sculpté ressortant dans la pénombre. J'ai fermé les yeux. J'avais peur de penser à ce qu'était l'endroit où je me trouvais. Combien de temps suis-je restée ainsi? Lorsqu'ensuite j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un rocking chair près du mur, un peu à l'écart du tas. Et un violon était posé dessus. Je l'ai pris en faisant attention à ne pas faire de gestes brusques, pour en vérifier dans l'ordre les courbes délicates, le toucher et la tension des cordes. J'avais l'impression d'avoir pour un instant entre mes mains le souvenir précieux qui survivait au fond de mes oreilles. J'ai essayé d'en sortir un son. Il n'y avait aucun bruit alentour. Et il résonna avec une telle fraîcheur que je sentis l'instrument vibrer entre mes bras. Je l'ai savouré le plus possible. Et après m'en être imprégné jusqu'au fond de mes oreilles, je l'ai remis à sa place. Le rocking chair a oscillé légèrement. Ensuite, il n'est resté que le silence. Y est venu procéder à la dernière sténographie. Il s'était assis à mon chevet sans même me dire bonsoir, avec une expression paisible comme s'il avait toujours été là. Il avait déjà à la main son reste de feuilles pour une séance et son stylo à billes.
Il faut absolument que je commence.
Ça n'a aucun sens de tarder plus. Parce qu'ici, tout est déjà fixé à l'avance.
Ici? Tu veux dire où?
À l'endroit où nous sommes, toi et moi.
Ici, c'est tout bêtement ma chambre.
Je ne parle pas de cette dimension. Maintenant, tu es à l'intérieur de ta mémoire.
Mémoire. Ce lit, cette carte de visite, cette véranda, et même tes doigts, tout cela c'est de la mémoire?
Exactement. Tu t'es égaré dans les méandres de ta mémoire. En réalité, ta mémoire devrait s'entasser derrière toi. Mais par inadvertance, elle s'est frayée un chemin à travers tes oreilles et elle est passée devant toi. À moins que ce ne soit toi, au contraire, qui ait fait un pas en arrière. Je ne sais pas plus que toi ce qu'il en est en réalité. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Parce que ce n'est rien de plus qu'une légère distorsion entre toi et ta mémoire.
Alors, qu'est-ce que je dois faire?
Rien. Ce sont mes doigts qui doivent faire quelque chose. Tu n'as rien d'autre à faire que leur raconter, comme tu l'as fait jusqu'à présent.
Il ne reste plus beaucoup de feuilles. J'ai peur de savoir ce qui va se passer quand il n'y en aura plus.
Tu n'as pas à avoir peur, tu sais. Tu vas seulement retourner d'où tu viens, c'est tout.
D'où je viens?
Oui. L'endroit où tu étais avant de venir ici. Là où ta mémoire et toi sont à leur place.
Et toi? Qu'est-ce que tu vas devenir?
Moi, je reste ici. Puisque j'étais ici dès le départ, je n'ai pas besoin d'aller quelque part.
Je veux rester avec toi.
C'est impossible.
Pourquoi?
Je te l'ai déjà dit, non? Ici, tout est déjà fixé à l'avance. Ici, c'est la mémoire. Tu n'y peux rien.
Je ne veux pas te... Je ne veux pas quitter tes doigts.
Nous n'allons pas nous séparer ainsi, tu ne crois pas? Parce que tu ne peux te séparer de ta mémoire.
Il a posé le mince paquet de feuilles sur ses genoux et il a pris mon oreille dans sa main gauche.
Tu n'as plus peur, n'est-ce pas?
Non.
C'était « Amours en marge » de Yoko Ogawa, traduit par Rosemary Makino, adapté par Gérard Cherki.
Le médecin m'a annoncé que je n'avais plus besoin de prendre de médicaments, ni de revenir en consultation.
Vraiment? Tes oreilles ne reviendront pas en arrière?
Même si ça voulait revenir, ça ne reviendrait pas.
Avec Élodie Hubert, elle, Bertrand Suarez-Passos, Y, Louis L, Hiro, Olivier Clavery, le journaliste, Françoise Lebrun, la femme d'âge mûr, Igor Menjiski, le jeune Eurasien, Laurent Lederer, le mari, Jean-Claude Sachaud, le vieil homme. Paul Schmitt, le garçon de 13 ans. Sophie Froissart, elle, à 13 ans. Et les voix de Jeanne Sellard, Ombline de la Tessonnière, Colette Marie, Élise Roth, Sarah Blamont, Fatima Aïbou, Jacques Poitrier, Romain Lemire, Michel Baladi, Séguir Mohamedi et Pauline Dubreuil. Composition musicale, Florian Bonani. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine et Amandine Grevaux. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman. Amours en marge est publié aux éditions Actes Sud.